France Musique.
Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Investi hier devant quelques centaines d'invités et des dizaines de milliers de drapeaux symbolisant le peuple américain, Kamala Harris et Joe Biden vont devoir gérer l'urgence d'une crise sanitaire sans précédent qui a fait à ce jour plus de 400 000 morts aux États-Unis. Le nouveau président qui a appelé à l'unité du pays a rapidement signé une quinzaine de décrets dès son installation dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Grégory Phillips nous appelle de Washington.
Assis au Resolute Desk, ce bureau en chaîne utilisé par presque tous les présidents américains depuis Hayes en 1880, Joe Biden prend les parapheurs les uns après les autres et signe ses 15 décrets présidentiels. Je vais commencer par tenir les promesses que j'ai faites au peuple américain, dit-il. Le 46e président des États-Unis suspend les financements prévus pour la construction du mur cher à Trump à la frontière mexicaine. Il lève aussi le Muslim Ban, cette interdiction faite aux ressortissants de certains pays étrangers à population musulmane de venir sur le sol américain. Pour lutter contre la pandémie de coronavirus, il ordonne le port du masque obligatoire dans les lieux qui dépendent du gouvernement fédéral et il écrit au secrétaire général des Nations Unies pour lui signifier son souhait de réintégrer l'Organisation mondiale de la santé. Pareil pour les accords de Paris sur le climat. Joe Biden est déjà au travail, mais encore un peu dans les célébrations. Hier soir, concert et feux d'artifice au-dessus du mémorial de Lincoln. Et il doit participer aujourd'hui à distance à une matinée de prière organisée en la cathédrale nationale de Washington.
Quasiment 2 milliards d'euros en faveur des technologies quantiques nécessaires pour transformer entre autres l'informatique et l'industrie. Ce plan d'investissement est détaillé aujourd'hui par le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a également rendez-vous avec des étudiants dont les formations sont perturbées depuis des mois par la crise sanitaire. Les stations de ski ne rouvriront pas le 1er février. Les professionnels du secteur vont devoir se faire une raison et sans doute tirer un trait sur toute la saison hivernale. Le gouvernement promet des aides à la hauteur de la situation. Quant aux restaurateurs, ils risquent bien de devoir attendre le mois d'avril pour recevoir à nouveau des clients dans leurs établissements. Hier soir, les députés ont de leur côté validé la prolongation jusqu'au 1er juin de l'état d'urgence sanitaire, défendu entre autres par Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui sera ce soir l'invité du journal de 20h de TF1. L'occasion de revenir sur les premiers effets du couvre-feu qui concerne depuis samedi tout le pays. Daniel Messager.
Un couvre-feu à 18h plutôt qu'un confinement, c'est un choix en demi-teinte. Il est appliqué au minimum pour ne pas que l'épidémie progresse. Mais là, fait-il diminuer? Regard sur deux départements. En Moselle, sous couvre-feu depuis le 2 janvier, le docteur Serge Braun, président des SAMU de France, dirige les urgences de l'hôpital Metz-Thionville.
Avant le couvre-feu, on avait eu une remontée de la courbe, très clairement. Là, maintenant, on est en plateau. Au niveau des appels dans les SAMU, on est entre 5 et 7% de dossiers qui concernent le Covid. Sur le CHR de Metz-Thionville, on a à peu près 170 patients hospitalisés Covid. On a arrêté d'augmenter, donc on peut penser quand même qu'il y a un effet couvre-feu qui maintient un plateau haut. Par contre, ça ne diminue pas. Ça, c'est sûr. Contrairement à ce qui s'était passé avec des confinements plus rigoureux.
Autre département, le Cher, le couvre-feu est plus récent, 12 jours, mais l'Agence régionale de santé constate une diminution. 252 cas pour 100 000 habitants la semaine du 4 janvier, 216 maintenant, et un taux de positivité qui est passé de 10 à 8. Mais les épidémiologistes demeurent prudents. Le couvre-feu semble contenir l'épidémie, mais si elle continue à progresser, même légèrement, il faudra des mesures plus fortes.
Il n'y aura pas d'excuses présidentielles après la publication hier du rapport de l'historien Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie. En revanche, le chef de l'État indique qu'il y aura des actes symboliques pour faciliter la réconciliation. L'Élysée approuve ainsi plusieurs propositions de ce rapport. Parmi elles, la reconnaissance comme lieu de mémoire de 4 camps d'internement en France. Ils ont successivement accueilli des Algériens, des partisans de l'OAS et des Harkis. Ce fut le cas, Mathilde Dehimi, du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise dans le département du Gard.
C'était une petite Algérie grillagée où l'on dormait dans de grands hangars séparés par des draps ou sous les tentes, se souvient Meshref, 8 ans à l'époque.
On était enfermés, il fallait des autorisations pour sortir, pour les visiteurs de venir voir leur famille à l'intérieur. C'était honteux.
10 000 personnes ont transité à Saint-Maurice-l'Ardoise jusqu'à sa fermeture sous la pression en 1976. Devant la caserne, toujours utilisée par l'armée, se trouve aujourd'hui une stèle. L'association Arakan a lancé l'an dernier un projet de mémorial essentiel pour sa porte-parole, Yamina Chalabi.
Personne n'a attendu Benjamin Stora pour qu'il y ait un lieu de mémoire sur ce camp-là. Des enfants ont été enterrés, n'avaient même pas de sépulture. Et ce cimetière-là révèle en lui-même toute la souffrance que les personnes ont endurée au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise.
Un camp et une histoire à l'abri des regards des voisins. Le conseiller départemental socialiste Philippe Pécou espère désormais pouvoir faire accélérer ce projet.
C'est une histoire qui a été parfois oubliée, notamment des manuels d'histoire. Et il est important qu'un lieu permette de l'expliquer de façon très pédagogique, de rappeler cette histoire.
Un mémorial ne suffit pas, disent les enfants de Harki. Il faut aussi ouvrir les archives algériennes et financer les recherches pour reconnaître notre histoire.
Quelques rayons de soleil sur les bords de la Méditerranée, sur les Pyrénées, partout ailleurs, la pluie et les fortes rafales de vent seront au rendez-vous. Les températures iront cet après-midi de 8 à 16 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
L'information revient à 13h sur France Musique et Olivier Doré revient demain matin à 7h. Bonne journée.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.